Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Bienvenue aux nouveaux auditeurs et à tous les habitués de cette émission. Et vous avez bien fait d'être fidèles au rendez-vous parce que nous avons encore beaucoup de choses à vous raconter et à vous présenter, mes camarades et moi. Des camarades qui aujourd'hui ont pour nom Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Tous les trois, nous sommes très heureux d'accueillir le clarinettiste Démis Delaty, notre invité d'honneur. Il fait partie des nombreux musiciens du Toulouse Wind Orchestra qui sont en concert la semaine prochaine, les 26 et 27 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous allons vous en dire plus sur cet orchestre et sur le programme de ces concerts lors de l'échange que nous aurons avec Démis Delaty tout à l'heure en seconde partie d'émission. Pour l'instant, c'est à l'actualité musicale récente que nous allons nous intéresser en revenant sur les concerts de la semaine dernière.
Mélomanie. Retour arrière.
L'actualité de la semaine passée, c'est d'abord le concert qu'a donné l'Orchestre National du Capitole vendredi à la Halle au Grain, sous la direction de Juan Marchal, un chef que les musiciens et le public toulousain commencent à bien connaître. Ce concert était entièrement consacré à des œuvres de Leonard Bernstein, dont nous célébrons cette année le 100e anniversaire de la naissance. Il y avait au programme l'ouverture de son opérette Candide, la suite On the Waterfront et surtout Kaddish, sa fameuse symphonie numéro 3, pour laquelle le chœur et la maîtrise du Capitole avaient été convoqués, ainsi qu'une mezzo-soprano et deux récitantes. Programme très copieux donc. Anne-Marie et Serge, vous étiez à la Halle au Grain vendredi. Comment s'est déroulée cette soirée Bernstein ?
Avoir l'accueil du public, c'était une soirée qui a comblé le public, qui en même temps a révélé les différentes facettes d'un compositeur, Leonard Bernstein, que l'on connaît par la célébrissime comédie musicale West Side Story, mais dont on connaît moins les autres œuvres qui sont plus variées que la comédie musicale. Donc cette fois-ci, c'était une soirée entière qui lui était consacrée, avec l'ouverture de Candide, On the Waterfront, que je ne connaissais pas, et la symphonie numéro 3, puisqu'il a écrit trois symphonies un peu particulières, la symphonie numéro 3 dite Kaddish. Et cette œuvre, qui est une œuvre très puissante, qui demande un chœur nombreux, un petit peu elle est théâtrale, elle emprunte à divers moyens d'expression. C'est une œuvre qui est d'une belle ferveur et qui en même temps nécessite une interprétation aussi bien du chœur que des musiciens qui soient à sa mesure. Je crois que le défi a été relevé sous la baguette du chef d'orchestre britannique Wayne Marshall, qui est un habitué des concerts du Capitole et qui connaît bien cette œuvre puisqu'il dirige régulièrement des œuvres de Bernstein.
Tout à fait. Alors oui, je voyais Serge Chauzy qui secoue un peu la tête. Non, il est bien britannique.
J'ai longtemps cru
qu'il est américain, moi aussi.
Et oui,
il est britannique.
Il est britannique.
Absolument. Mais un chef très dynamique, très précis, qui donnait des indications parfaitement décodées par les musiciens et les deux chœurs.
Un chef très musicien lui-même.
Très musicien, un pianiste.
Pianiste.
Exactement. Alors, effectivement, il y avait d'abord l'ouverture de Candide, dont on a vu l'intégrale il y a quelque temps au Théâtre du Capitole. C'était en décembre 2016.
Oui, c'est très récent.
On a eu le droit à l'intégralité de l'œuvre, qui est formidable, hein, qui est un spectacle en elle-même. Et puis cette fameuse suite, effectivement, qui est très rarement donnée, On the Waterfront, c'est-à-dire sur les quais, d'après le film d'Elia Kazan, qui date de 1954, dans lequel il y avait le célèbre Marlon Brando qui crevait l'écran, là, qui était un ouvrier méprisé. C'était un beau film, hein, et une très belle suite d'orchestre, avec notamment une introduction au cor solo. Là, il faut le dire, hein, Thibaut Hoquet, qui était le cor solo, a fait une introduction miraculeuse. Hein. C'est d'une difficulté incroyable,
c'est ce que
à cappella tout seul.
C'est pas simple. Hein.
C'est vraiment très
dur.
Et
puis là, si on se plante, comme on dit vulgairement, ben ça se voit.
Ah oui, oui,
c'est
oui.
Terrible.
Là, un sentiment de solitude incroyable. Donc, il a fait ça très très bien. Toute la suite était très belle. Hein. Puis, il y a eu cette fameuse symphonie, troisième symphonie, comme disait Anne-Marie, troisième symphonie Kaddish. Alors, Kaddish, c'est le nom de la prière hébraïque de louange.
Très importante de préciser.
En l'honneur de Dieu. Oui. Alors, elle a été composée, cette symphonie, en 63. Il l'a révisée en 77. Et elle est dédiée quand même, il faut le savoir, à la bien-aimée mémoire de John Kennedy.
Oui, c'est pas pour rien que c'est en 63 qu'il la compose, c'est juste après, le,
bah, juste après
l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas.
Hein. Dont il était ami, hein, ils étaient très proches. Hein. Et donc, cette partition musicale, en fait, elle est assortie d'un texte très important. D'un texte, alors initialement, c'était le compositeur lui-même, Bernstein qui avait écrit ce texte, puis lorsqu'il a révisé l'œuvre en 1977, il a modifié la version initiale, et puis là il s'est adressé à son ami Samuel Pizar pour lui demander d'écrire une troisième version, cette fois inspirée par ses souffrances, puisqu'il a été déporté, Samuel Pizar, dans les camps de la mort, de la Shoah, et donc c'est à lui qu'il a demandé d'écrire un nouveau texte, et ce texte, en fait, Samuel Pizar l'a encore modifié au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, et c'est cette version-là qui était donnée à Toulouse. Et émotion supplémentaire, au lieu d'un récitant, ce qui est le cas d'habitude, ou une récitante, il y avait deux récitantes, et qui étaient justement l'épouse de Samuel Pizar et sa fille. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très fort pendant cette exécution. Et donc, ces deux dames ont dit le texte de Samuel Pizar, en anglais, évidemment.
La version originale, hein, en anglais.
Bon, c'est évidemment, c'est un peu gênant pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'anglais. Elles ont fait très attention à la prononciation, c'était vraiment très calibré, très bien fait. Et donc, vraiment, un grand moment d'émotion pendant toute cette symphonie en trois mouvements. Hein. Et il faut dire aussi qu'une chanteuse, une soprano, qui s'appelait Kelly Nassieff, est également une partition pour elle, avec une voix magnifique, vraiment stupéfiante, donc qui a accompagné en quelque sorte le déroulement de cette œuvre. Vraiment une œuvre formidable et avec un texte très fort.
Et alors, comment s'est comporté l'orchestre dans son répertoire qu'il n'aborde pas forcément très souvent? Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment maintenant un orchestre tout-terrain, l'Orchestre national du Capitole.
Non, mais pour l'orchestre, il n'y a eu aucun problème. Hein. L'orchestre était tout à fait intégré à la vision qu'en avait Wayne Marshall.
Oui, qui est très apprécié des musiciens en plus.
Hein. Voilà, que les musiciens aiment beaucoup. Et lui adore l'orchestre. Hein. C'est pour ça qu'on le voit si souvent à Toulouse. Hein. Ça a été très bien, le double chœur formidable, avec notamment le chœur des enfants, de la maîtrise du Capitole. C'est très émouvant là aussi, hein, lorsqu'il se lève pour chanter cette ode magnifique.
Et donc, puis c'était un peu le retour du chœur du Capitole avec l'orchestre à la Lohengrin, ce qui a longtemps qu'il ne s'était pas produit en même temps.
Oui. Cette année, c'est une première année où le chœur du Capitole va être très présent à la Lohengrin avec l'orchestre. Ils ont 5 programmes, dont celui-ci prévu. Et pour l'avenir, donc, le chœur sera quasiment aussi attaché à l'orchestre du Capitole, ce qui évite le recours à des chorales extérieures. Ils sont à Toulouse, il n'y a pas énormément d'opéras toute la saison, donc pour eux, c'est une activité aussi importante.
D'autant plus que c'est un chœur de très grande qualité,
et qu'ils sont de très haut niveau
dans cette émission. Hein.
Et bien évidemment, avec un chef de chœur tout à fait,
voilà,
Alfonso Cajani, qui fait
un travail formidable depuis des années.
Qui fait un travail magnifique, qui a vraiment énormément remonté le niveau général du chœur, hein, qui est l'égal des grands chœurs d'opéra internationaux.
Voilà. Alors, de mémoire, je crois qu'il y aura 2 autres rendez-vous dans la saison de l'Orchestre national du Capitole avec le chœur du Capitole. Je crois qu'il y a la Damnation de Faust de Berlioz.
Oui.
Je crois que c'est en mars, en février ou en mars, je me trompe peut-être. Et puis, juste après, d'ailleurs, je crois qu'il y a Daphnis et Chloé de Maurice Ravel.
Voilà, la version
Voilà. Donc, encore 2 très beaux moments en perspective avec l'orchestre et le chœur du Capitole. Et bien, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette œuvre singulière qu'est Kaddish, je vous propose d'en écouter un extrait, la symphonie numéro 3 de Leonard Bernstein, une version dirigée par le compositeur lui-même.
Magnified. And sanctified. The great name
un extrait de Kalisch, la symphonie numéro 3 de Leonard Bernstein, une œuvre très forte, une des œuvres maîtresses du chef d'orchestre et compositeur américain, et une de celles qui était au programme du concert donné vendredi dernier par l'Orchestre National du Capitole à la Lograin. Deux jours plus tard, dimanche, c'était le concert de clôture de Toulouse des Orgues à la Basilique Saint-Cernin. Je voulais que nous fassions un petit bilan de l'édition 2018 du festival, qui semble avoir été un très bon cru, avec une programmation variée, des concerts et des musiciens de qualité, et un public qui était au rendez-vous. Est-ce que c'est aussi votre impression, Serge ?
Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas assisté, évidemment, à tous les concerts. C'est quasiment impossible. Mais vraiment, c'est la diversité qui était étonnante cette année, avec ce mot d'ordre, orgue sacré, sacré orgue, donc, qui évoquait à la fois la composante sacrée de l'orgue et sa composante profane. Moi, je voudrais juste mentionner deux concerts qui m'ont particulièrement intéressé. C'est le premier concert donné par un trio qui s'appelle de manière sibylline, le rapt invisible. Essayez de découvrir ce que ça signifie.
Alors, rapt, c'est un acronyme, j'ai plus en
oui,
tête
c'est un
exactement.
Acronyme extrêmement
ils
compliqué.
Ont, voilà, ils ont fait un jeu de mots là-dessus, puis rapt invisible, comme ça, c'est vrai, ça intrigue. Hein, on a envie
oui,
de savoir ce qu'il y a derrière.
Mais ils ne le publient pas.
Même si c'est invisible.
Oui, 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 tout à fait invisible. En l'occurrence, c'est trois personnes, trois interprètes.
Trois jeunes musiciens.
Il y a un chanteur, il y a un DJ en quelque sorte, oui, qui est avec des platines, et puis un organiste, donc. Et tous les trois ont présenté une espèce de medley de chants grégoriens, accompagné à la fois par l'orgue et les électroniques. Donc, mais c'était frappant. Hein. Et tout ça, ça se passait dans l'église des Jacobins, l'immense église
couvent des Jacobins.
Du couvent des Jacobins, dans une disposition très particulière, d'ailleurs, qui occupait l'une des deux voûtes, puisqu'il y a deux voûtes, hein, avec ce fameux palmier. Donc. Et c'était tout à fait impressionnant, avec des atmosphères planantes par moments, quelquefois très agressives et très violentes, et avec ce chant grégorien qui est en quelque sorte le fil rouge de tout le spectacle. C'était très très intéressant, donc vraiment une belle soirée, complètement inattendue, il faut le dire. Hein. Avec un orgue, oui, il faut préciser, un orgue qui s'appelle orgue de voyage et qui est un orgue transportable constitué de 17 modules. Avec une console donc électronique, transportable, et puis un clavier, mais c'est un orgue acoustique. Hein. Il y a des tuyaux, c'est pas du tout un orgue électronique. Hein, donc,
ça ressemble vraiment à un orgue.
Ah oui, un orgue véritable, c'est très étonnant et très convaincant. Ensuite, je voudrais parler aussi d'un concert un peu en marge, un concert de fête. Ça s'appelait d'ailleurs Jour de fête, il avait un titre ce concert. Et c'était pour fêter le double anniversaire, les 60 ans de deux grands musiciens, Michel Bouvard d'abord, qui est l'un des co-créateurs du festival.
Qui ne connaît pas Michel Bouvard à Toulouse ?
Qui ne le connaît pas.
En tout cas, ceux qui s'intéressent à l'orgue.
Et même à Paris, donc.
Oui, bien au-delà.
Et même partout.
Bien au-delà.
Et son compagnon, Christophe Coin. Qui ne connaît pas Christophe Coin non plus, immense musicien,
hein, oui.
Grand musicien. Alors ce qui était formidable, outre le programme très varié, qui allait de la musique de la Renaissance jusqu'à Gabriel Pernet, par exemple, 20e siècle, hein, c'est que les deux interprètes pratiquaient plusieurs instruments. Ainsi, on a eu sous les doigts de Michel Bouvard, le clavecin, l'orgue et le piano. Et sous l'archet... Les archers, je devrais dire, de Christophe Coin, il y avait le violoncelle baroque, violoncelle moderne, avec la pique, et la viole de gambe. Hein. Donc, il a joué en double avec l'orgue, avec le piano et avec le clavecin. Avec toute une distribution de pièces tout à fait étonnante. En fait, la plus connue, c'était le bis, puisqu'il s'agissait de l'élégie de Forêt.
Donc, oui, en effet.
Ça, c'est connu, effectivement. Mais le reste était assez peu connu. Donc, il y avait découvertes et instruments multiples.
Oui, beaucoup de moments insolites, d'instruments. Une formation insolite. Oui. Le concert de clôture, moi je n'y étais pas, mais la Basilique Saint-Cernin était comble, encore un concert comble, il y en a beaucoup ces temps-ci, mais l'ensemble des concerts de la programmation de Toulouse des Orgues apparemment ont souvent été ou remplis ou quasi remplis, donc ça a très très bien marché. Concert de clôture qui, paraît-il en plus, était magnifique. Trois organistes qui se sont succédés. Bravo à Toulouse des Orgues pour cette belle édition 2018 couronnée de succès. Vous parliez de cette jeune formation, le Rapt Invisible, qui a donné deux concerts durant ce festival, deux à chaque fois aux Jacobins, et qui ont été toujours très appréciés. Nous allons les écouter encore une fois dans une de leurs compositions, un morceau intitulé « Lux Aeterna ». Eterna par le Rapt Invisible, l'une des formations programmées lors de cette très belle édition 2018 du Festival Toulouse Les Ors qui s'est terminée dimanche dernier. Et le lendemain, à la Halle aux Grains, avait lieu le concert Mozart Pèlerin de l'Infini. Nous vous l'avions annoncé dans cette émission lors de la venue de Ruben Velasquez, le président de la Dame d'Aragon qui organisait cet événement, où ont été donnés le concerto pour piano numéro 23 et le Requiem. Sur le plateau, l'orchestre du Royaume d'Aragon dirigé par Ricardo Cassero et un tout jeune pianiste dont le nom va nous être rappelé par Anne-Marie Chouchan, qui était présente comme moi lundi soir à la Halle aux Grains. Comment s'appelle-t-il ce pianiste qui n'a même pas 12 ans ?
Il s'appelle Constant Després. Ce garçon qui a 11 ans, qui fait ses études, des études de collégien tout à fait normales, est une sorte de prodige, même si son père refuse qu'on emploie le mot prodige. Mais il est vrai qu'à 11 ans, il a joué avec un aplomb incroyable deux mouvements du 23e concerto pour piano de Mozart, avec un naturel. Il n'a pas le trac, dit-il. Et...
En tout cas, ça ne se voit pas s'il l'a.
Non, je crois qu'il le déclare lui-même, il n'a pas le trac.
Il me l'a dit, oui, tout à fait. Et ce garçon a eu un rapport au clavier, au piano qui semble presque simple et il a joué ça très très bien avec à la fois de l'assurance technique, un beau toucher et puis un sens musical déjà sensible. Et c'est vrai, il est à suivre, il est en classe de 5e dans un collège de Tournefeuille, donc voilà, il continue sa vie et il voudrait être concertiste de toute façon.
Oui, je pense que pour l'instant, en tout cas, il a l'air de bien savoir ce qu'il veut et moi j'ai pas du tout le sentiment qu'on le pousse vers le piano. Non, il y va tout seul avec grand plaisir. C'est encore un jeu pour lui, je pense, aujourd'hui. Hein.
C'est tout à fait ça, mais en même temps, il est très sérieux. On ne le pousse pas, son père, ses parents ne le poussent pas. Il fait ça parce que ça lui plaît et il a envie de le continuer pour faire une vraie carrière, et espérons-le, parce qu'il est très doué. Et c'était la première partie de ce concert, donc Mozart Pèlerin de l'Infini, qui était présenté par cette association La Dame d'Aragon, et qui était toute une soirée entièrement consacrée donc, à Wolfgang Amadeus, avec en première partie, les deux premiers mouvements du concerto numéro 23 de Mozart, et dans la deuxième partie, le merveilleux Requiem, bien sûr, que tout le monde connaît, avec le chœur Amici Musicae. Ouais. Amici.
Alors je ne sais pas, parce que c'est un chœur espagnol, je ne sais pas s'il prononce Amici, Musicae. Toujours est-il que c'est le chœur avec lequel, je crois, travaille régulièrement l'orchestre du Royaume d'Aragon, qui est basé à Saragosse. Alors, comment vous avez trouvé leur interprétation du Requiem ? Bon, évidemment, il y avait ce chœur dont vous venez de parler, il y avait 4 solistes.
L'interprétation du Requiem était pour moi une interprétation qui, justement, évitait l'écueil d'un Mozart grandiloquent. C'était équilibré, avec un effectif qui était relativement mesuré, notamment orchestral. C'était un Requiem de Mozart, à la fois émouvant et bien conduit dans l'ensemble, avec des solistes qui se fondaient bien avec le tout, et un beau Requiem, comme on l'attend. C'est-à-dire sans effet grandiloquent, avec beaucoup de simplicité expressive. Et Ricardo Cassero, je crois, conduit ça comme on s'attend à entendre cette œuvre.
Oui, très belle direction, très élégante aussi, très agréable à regarder, diriger. Le chœur, moi, j'ai trouvé remarquable. En revanche, dans l'orchestre, en tout cas au départ, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Anne-Marie, les cuivres, au départ, ça a été un peu laborieux quand même.
Oui, peut-être, mais ça, peut-être, c'était à froid.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Les cuivres, vous êtes bien placés pour le savoir.
Ils démarrent, ils sont vraiment nus, on peut le dire.
Il y avait un ancien soliste du Capitole, qui était un corniste qui a fait une belle carrière, Pierre Del Vescofo, qui disait toujours que, finalement, il râlait souvent, il disait, on entend le corps quand il y a un léger problème.
C'est vrai,
On note jamais notre présence, pas souvent. Voilà, il suffit qu'il y ait un petit problème, c'est vrai, ils attaquaient à froid.
Bah, surtout pour lancer le Requiem de Mozart. Là,
mais cela dit, je pense que l'interprétation d'ensemble était...
Oui, dans l'ensemble,
non,
je suis d'accord.
Parce que il faut surtout éviter dans cette œuvre de la surcharger, de la diriger avec des effets. Il y avait une sérénité qui s'en dégageait. Et les solistes se fondaient à l'ensemble. Moi, j'étais assez ému même de cette interprétation.
Oh ben, le Requiem, on est toujours ému, sauf vraiment s'il est massacré, ce qui était loin d'être le cas. Hein. Pour le plaisir, nous allons réécouter un extrait de ce Requiem, le Lacrymosa, interprété, bien sûr, par l'orchestre du Royaume d'Aragon. Le Lacrymosa du Requiem de Mozart, interprété par l'Orchestre du Royaume d'Aragon sous la direction de Ricardo Cassero. Et c'est avec eux que nous terminons cette première partie d'émission. Pause d'une minute et l'on se retrouve pour la seconde partie et l'agenda de la semaine prochaine. Restez bien à notre écoute. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et donc avec notre invité d'honneur, le clarinettiste Démis Delaty, membre du Toulouse Wind Orchestra.
Mélomanie, l'agenda.
Avant de retrouver Démis Delaty pour évoquer les concerts du Toulouse Wind Orchestra à Saint-Pierre-des-Cuisines les vendredis 26 et samedi 27 octobre, je voulais prendre quelques minutes pour présenter le récital que donne la contralto Marie-Nicole Lemieux au Théâtre du Capitole, jeudi 25 octobre à 20h. Elle y sera accompagnée par le pianiste Roger Vignol et Serge Chauzy va se faire un plaisir de nous présenter cette chanteuse québécoise et le programme qu'elle va interpréter jeudi.
Oui, donc c'est une très très grande cantatrice, on peut dire, qui est déjà venue à Toulouse, notamment elle a dû donner un récital une fois, en remplacement d'ailleurs d'une autre chanteuse qui avait
dû déclarer forfait.
Et elle avait surtout été, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la Sphinge dans l'opéra Oedipe.
Oui.
Hein, n'est-ce pas, du roumain Georges Enescu. Donc, elle avait tout à fait impressionné dans cet opéra. Hein, ça avait été magnifique. Elle a vraiment un des sommets, son intervention, un des sommets de cet opéra. Et donc, c'est une cantatrice qui a d'énormes qualités, non seulement vocales, mais expressive, musicale. Non, c'est vraiment une très grande cantatrice. On a beaucoup de chance d'avoir une cantatrice comme cela en récital au Théâtre du Capitole. Il faut dire que cette année, la liste des invités pour cette série de récitals est impressionnante.
Oui, j'allais dire, il n'y a que du premier choix. Ah, et c'est pas de Marie qui me démentira, puisqu'elle a récemment vu le récital de Nicolas Alaïmo, et c'était formidable.
C'était formidable, oui, parce qu'on a pu mieux apprécier que dans la Traviata, où le rôle de Jean-Monpère n'est pas tellement valorisant. On a pu apprécier l'énorme palette vocale de ce magnifique baryton. Son sens théâtral, sa maîtrise, c'est vrai, de la voix sur toute la palette, c'était extraordinaire. Et ça s'est terminé par une ovation debout du public.
Oui, et malheureusement, le public n'a pas été très nombreux jusqu'à maintenant à ces récitals parce que, bon, y a une grosse actualité musicale à Toulouse. Et parfois, même nous d'ailleurs, il y a des choses qui nous échappent. En tout cas, j'espère que ceux qui nous écoutent vont prendre le temps d'aller sur le site du Théâtre du Capitole pour regarder cette saison de récitals. Oui. Encore une fois, avec vraiment que des têtes d'affiche. On revient à Marie-Nicole Lemieux.
Oui, et puis même avant de revenir à Marie-Nicole Lemieux, je voudrais quand même préciser qu'il y a quand même eu également un récital de Max-Emmanuel Sencic,
oui.
Quand même grand contre-ténor, et qu'il y aura le 30 novembre un récital du baryton Christian Gerhard,
formidable.
Qui est une merveille.
Aujourd'hui, c'est
de
un des
récitalistes. Grand chanteur, donc il ne faut pas manquer ces récitals, qui sont des merveilles. Alors pour ce qui est de Marie-Nicole Lemieux, eh bien, cette fois, elle vient donner un récital de mélodies vraiment très intéressantes. Une partie des mélodies sur des poèmes de Baudelaire, mélodies françaises, avec du Parc.
Je les ai sous les yeux. Il y a du Chausson, du Debussy, du Parc, du Forêt, du Déodat de Sévrac et du Gustave Charpentier. Voilà.
Rien que ça, c'est peu de choses.
Voilà.
Et puis ensuite, une série de Lieder également sur des poèmes de Goethe. En allemand, évidemment. Donc, et là, quels sont les compositeurs ?
Alors, il y a Robert Schumann, Schubert, Beethoven, Fanny Mendelssohn et Hugo Wolf.
Très bien. Bel hommage à la compositrice
Fanny Mendelssohn,
la sœur de Félix, qui est un peu passée à la trappe, quand on a peu parlé. Bon. C'est vrai
justement,
que le rôle de la femme parmi les compositeurs de l'époque était peu reconnu. Donc c'est une bonne chose. Ce sera un beau programme à écouter là, et à suivre avec beaucoup d'attention.
Et je précise que les tarifs sont compris entre 15 et 20 euros. Donc je pense que c'est à peu près à la portée de toutes les bourses. Pour ça qu'il ne faut pas s'en priver. Marie-Nicole Lemieux, accompagnée par le pianiste Roger Vignol, au Théâtre du Capitole, jeudi 25 octobre à 20h, avec le programme dont vient de vous parler Serge Chosy. Eh bien, on va écouter Marie-Nicole Lemieux maintenant. C'est un des poèmes les plus connus de Charles Baudelaire, L'Albatros, mis en musique par Ernest Chausson. Thank you. L'Albatros, mélodie d'Ernest Chausson sur le fameux poème de Charles Baudelaire, chanté par Marie-Nicole Lemieux, qui sera donc accompagnée par le pianiste Roger Vignol pour le récital qu'elle donne jeudi 25 octobre à 20h au Théâtre du Capitole. Nous en arrivons maintenant aux deux concerts du Toulouse Wind Orchestra, vendredi 26 et samedi 27 octobre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Pour en parler avec nous, Démis Delaty, clarinettiste et membre éminent de l'orchestre, est à nos côtés dans ce studio. Nous allons bien sûr parler du programme de ces concerts, mais auparavant, il va falloir présenter le Toulouse Wind Orchestra et vous allez nous y aider. En quelle année et par qui a-t-il été fondé cet ensemble ?
Alors, le Toulouse Wind Orchestra a été fondé en 2015,
je crois.
15, c'est ça. 2015, à l'initiative de Jean-Élie Eftekari, qui est flûtiste de l'orchestre et qui est également musicien au sein de l'orchestre militaire qui est basé à Balma, armée de terre, et Guillaume Leblanc, trompettiste également de l'orchestre.
Qui, lui, est issu de quelle formation ?
Alors, la plupart des musiciens sont issus du Conservatoire de Toulouse. Donc voilà, ils ont passé leur diplôme.
Ça, c'est le point commun, la plupart d'entre eux.
Exactement.
Quel qu'ait pu être après leur évolution et la suite de leur carrière.
Tout à fait.
Alors justement, vous êtes combien dans cet orchestre ? J'ai l'impression que c'est un effectif, je ne vais pas dire pléthorique, mais en tout cas...
Confortable.
Voilà.
Alors confortable, oui, on est en général sur les grosses sessions, on est jusqu'à 80 musiciens à peu près. On a des sessions un peu avec un effectif plus réduit, comme le concert que nous avons donné à la Lograin au mois d'avril, où là c'était un effectif plus réduit d'une trentaine de musiciens. Mais voilà, en général, les sessions du mois d'octobre, c'est avec l'artillerie lourde, 80 musiciens à peu près, et un programme assez puissant.
C'est pour ça qu'il faut un grand plateau comme celui de Saint-Pierre-des-Cuisines. On ne peut pas faire ça n'importe où, évidemment. Donc les musiciens, 80, mais quels sont les instruments qui sont représentés dans cet orchestre des vents de Toulouse, parce que Toulouse Wind Orchestra, mais il n'y a pas que des vents, bien entendu.
Il n'y a pas que des vents. Alors bon, bien sûr, on essaye de mettre en avant toutes les familles et tous les instruments avant, que ce soit déjà pour commencer les pupilles des clarinettes, avec toute la famille représentée, les saxophones, bien sûr, les flûtes, hautbois, basson, enfin voilà. Après, on a un gros effectif de cuivre, et notamment une des œuvres où il y aura du saxhorn, par exemple, qui n'est pas forcément un des instruments les plus représentés. Mais la particularité également du Toulouse Wind Orchestra, c'est d'inclure les violoncelles à l'orchestre avant pour donner une coloration à l'orchestre. C'est une tradition dans les orchestres d'harmonie espagnols, mais en France, on ne le voit pas très souvent. Et voilà, nous, on aimait bien cette couleur et on voulait la mettre à profit parce qu'on a plein d'amis qui sortent également du Conservatoire de Toulouse et qui sont violoncellistes professionnels. Donc voilà, ils se sont joints à nous et ça donne cette coloration d'orchestre avant très particulière.
Alors apparemment, hormis votre amour de la musique, bien sûr, ce qui réunit aussi tous ces musiciens, c'est l'amitié, j'ai l'impression.
Ben oui, ça c'est le point fort et le premier point... En gros, on s'est succédé sur plusieurs générations à Toulouse. On a tous fait partie des orchestres du conservatoire à l'origine, et notamment l'harmonie. Instrumentiste avant, souvent on vient de l'harmonie, parce que dans nos villages, dans la région, enfin partout, on a des harmonies, des petites harmonies, et finalement pas souvent d'orchestre symphonique. Donc du coup, c'était représenté, il y avait une belle harmonie au conservatoire, enfin il y a encore d'ailleurs, il y a toujours cette tradition de l'orchestre d'harmonie au conservatoire, et donc nous, on est tous passés par là, et on a eu envie, 10 ans après nos études, étant professionnels tous de la musique, de nous retrouver, de retrouver tous les copains qui étaient passés en même temps que nous, ou quelques années avant ou après, par Toulouse, et se retrouver en formant cet orchestre d'harmonie.
Et puis il y a aussi un pupitre de percussion, c'est important.
Exactement, oui. Pupitre de percussion avec de très bons percussionnistes qui font partie de tous les orchestres français, même à l'étranger également. Il y en a de Toulouse qui sont à l'Orchestre du Capitole, des professeurs également de conservatoires ou d'écoles de musique voisines.
Alors vous vous produisez quelques fois par an, vous vous réunissez à cette occasion, c'est pas un orchestre où les musiciens jouent tout le temps ensemble. En revanche, qui vous dirige ? Est-ce qu'il y a un chef attitré ou est-ce que vous invitez à chaque fois un chef différent ?
Alors chaque session c'est un nouveau chef qui est invité. Cette année, pour la prochaine session, c'est Mathieu Romano qui va faire office de chef, qui sera à la baguette donc.
Qui vient d'où lui ?
Il est sur Paris.
Il est passé aussi à Toulouse à une époque ?
Non,
je pense pas. Alors lui, c'est vraiment un chef invité qui vient de l'extérieur. C'est pas un ancien du Conservatoire
non.
de Toulouse.
Pour l'instant, les seuls... On a eu Marc Ursule sur la première édition, qui lui était toulousain confirmé même.
Est-ce qu'une formation comme la vôtre, c'est quelque chose de très rare, ce genre de formation ?
Oui, il y a peu de formations en France, il y en a quelques-unes. Il y a la garde républicaine, il y a des orchestres dans le nord de la France, beaucoup d'orchestres, parce qu'il y a la tradition des orchestres liés aux mines. Il y a de très belles harmonies un peu partout dissimulées en France, mais c'est pas forcément une tradition.
En revanche, je crois que ça existe beaucoup plus au Royaume-Uni.
Exactement. Au Royaume-Uni, il y a donc les harmonies et les brass bands.
Oui. Alors j'ai vu que vous aviez participé à ce qui doit être un concours, le World Music Contest de Kerkrade, je ne sais pas si je prononce bien, en 2017, c'est aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas, c'est bien ça.
Et que vous aviez été classé 3e.
Voilà, on a eu un premier prix, on a été classé 3e pour une première
participation
à ce concours. Voilà, on a rencontré de super ensembles avant également, qui venaient un peu partout en Europe.
Est-ce qu'il y a un répertoire spécifique pour ce genre de formation ou est-ce que ce sont essentiellement des transcriptions ?
Alors, il y a un répertoire spécifique avec des auteurs qui se dédient justement à l'écriture pour les orchestres d'harmonie, mais on essaie de mettre un point d'honneur sur nos répertoires, en tout cas sur les programmes que nous proposons, à toujours avoir une œuvre originale pour orchestre d'harmonie, une œuvre adaptée du répertoire symphonique qui est retranscrite pour l'orchestre d'harmonie. Et une autre œuvre, en général, on essaie d'avoir une œuvre originale qui est pour soliste, pour mettre un instrument en avant, et souvent un jeune soliste. Habituellement, c'est soit des retranscriptions ou des œuvres originales, et cette année, on a une création pour la première fois.
On va en parler, bien entendu. Les années précédentes, qu'est-ce que vous avez joué comme pièce ? Est-ce qu'il y avait des pièces marquantes de ce type de formation ? Ou de répertoire, en tout cas.
Oui, des œuvres marquantes, on en a eu plusieurs. Bon, déjà, dans le répertoire, des œuvres piquées un petit peu à l'orchestre symphonique, on a pu jouer, par exemple, une adaptation de West Side Story, justement, parce qu'on parlait de Bernstein
voilà,
tout à l'heure. On a eu également du Gershwin avec Rhapsody in Blue. L'année dernière, on avait un répertoire axé sur la magie avec, je ne me souviens plus maintenant des noms des œuvres.
En tout cas, j'ai vu aussi que vous avez déjà fait paraître 2 CD. Il y a un premier CD dont le titre est Golden Side, et puis il y a eu le CD Blue Apple.
C'est ça, avec la symphonie...
La symphonique ouverture de John Barnes.
Barnes, c'est ça.
Qui apparemment, lui, est un compositeur américain. Qui a composé pour ce genre de formation.
Exactement.
Directement. Apparemment, c'est plus courant aux États-Unis, me semble-t-il.
C'est plus courant aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'orchestres à l'école et les universités qui ont des ensembles instrumentaux très présents et on peut les retrouver souvent associés au sport. Des ouvertures pour, alors je ne veux pas dire les Jeux Olympiques, mais des grosses compétitions sportives ou d'autres événements plus classiques, on va dire. Mais voilà, justement, il y a beaucoup de compositeurs là-bas parce qu'ils ont des gros ensembles d'instruments avant.
Alors, puisqu'on en parle, et pour vous faire découvrir le son du Toulouse Wind Orchestra, voici un morceau extrait de son CD Blue Apple, justement la Symphonic Overture de John Barnes.
Thank you.
La Symphonic Overture de John Barnes, c'est très américain comme vous avez pu le constater, extrait du CD Blue Apple du Toulouse Wind Orchestra, une pièce qui n'est pas au programme des concerts que vous donnez vendredi et samedi prochain à Saint-Pierre-des-Cuisines, des Mises de Lattie. Alors qu'est-ce que vous allez nous proposer cette fois-ci pour ces deux concerts qui seront dirigés, je le rappelle, vous l'avez déjà dit, par Mathieu Romano?
Alors au programme, il y aura Dionysac de Florent Smith, une œuvre originale pour orchestre à vent. Il y aura la création d'un concerto pour hautbois de Gabriel Philippot, création originale qui a été une commande du Toulouse Wind Orchestra et qui sera interprétée par Alexandre Gatté. Et on continuera avec les Pins de Rome de Ottorino Respighi. Ça, c'est une transcription d'un poème symphonique et une œuvre à l'origine écrite pour orchestre symphonique.
Alors, on va parler d'abord de cette création, de cette commande que vous avez passée à Gabriel Philippot. Alors, moi, j'avoue que je ne connaissais pas son nom. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce compositeur? Est-ce que c'est un jeune compositeur?
Un jeune compositeur qui était rentré en 2010 au Conservatoire supérieur de Paris, où il a obtenu tous ses prix, que ce soit d'écriture, de composition. Donc il fait partie de la jeune génération de compositeurs et également chef d'orchestre. Voilà, en 2016, il crée son premier opéra. Il a écrit depuis plusieurs œuvres. Dernièrement, il écrit pour l'ensemble trombone Octotrip, qui est basé sur Lyon, avec en soliste Hélène Escriva, une jeune du sud-ouest très prometteuse, qui est euphoniomiste et tubiste.
Ah oui, oui.
Voilà, une étoile montante, on va dire. Et là, il nous fait le plaisir de nous écrire ce concerto pour hautbois.
Est-ce qu'il l'a écrit en sachant que ce serait Alexandre Gatté qui allait le jouer? Je me posais la question, parce qu'ils doivent être à Paris tous les deux, apparemment, puisqu'Alexandre Gatté est le hautbois solo de l'Orchestre de Paris, tout de même, c'est pas rien.
Alors, honnêtement, je n'ai pas ces informations-là, mais je pense que oui, tout à fait. Connaissant déjà l'orchestre, quand on lui a proposé le projet, on a...
Oui, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'un compositeur écrit en sachant qui est le soliste qui va créer, donc il sait le son, il sait de quoi il est capable.
C'est quelquefois écrit sur mesure. Hein.
Ah oui.
C'était
oui.
Le cas de Benjamin Atahir, qui
oui,
avait écrit un concerto pour hautbois pour Olivier Stankiewicz, hein, qui était à l'époque hautbois solo de l'Orchestre du Capitole. C'est un peu la même démarche. Hein,
oui, tout à fait, oui.
Alors, vous avez déjà répété, je suppose? Du tout, pas
non,
encore.
Pas encore.
D'accord, donc vous ne savez pas à quoi elle ressemble, cette œuvre. Vous ne pouvez pas
pour
nous en dire plus.
Non, ça sera une surprise et je vous invite à venir les 26 et 27 pour découvrir l'œuvre.
Et nous viendrons, on ne va pas manquer ça, évidemment. Je voudrais qu'on parle des autres compositeurs et des œuvres qui sont programmées à ce concert. Florent Schmitt, il faut rappeler qui c'est. Je pense que Serge, qui est plutôt bien placé en général pour le parler de l'histoire de la musique.
Alors, Florent Schmitt, c'est un grand compositeur français qui n'a peut-être pas écrit un grand, grand nombre d'œuvres, mais qui est d'œuvres de grande qualité. Hein, donc, c'était un orchestrateur extraordinaire, Florent Schmitt. Hein.
Génération de Maurice Ravel.
Ah, tout à fait, tout à fait.
À qui, donc... je crois, il avait chippé un prix de Rome.
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
Ravel n'a jamais eu le prix de Rome. À chaque fois, il est arrivé deuxième. Oui. Et une fois, c'est notamment Florent Schmitt.
Exactement.
Une fois, c'était André Caplet, je crois, qui lui avait soufflé le prix. Et là, c'était Schmitt. Mais l'histoire a plus retenu Ravel, vous voyez.
Oui, comme quoi, quelquefois, les prix.
Cela dit, c'est peut-être un peu injuste pour Schmitt, qui est un bon compositeur.
Excellent compositeur, vraiment avec des musiques à la fois dramatiques, fortes, structurées, colorées. Donc c'est un grand compositeur. On est très content d'écouter des œuvres de lui. Hein.
Alors ça, vous avez déjà répété le Florent Schmitt?
Non plus. On n'a pas commencé les répétitions, à vrai dire.
Voilà, ça sera seulement la semaine qui vient. Et puis, alors Pins de Rome, Ottorino Respighi.
Bon, là,
ça, ce sont des petites merveilles.
Ah, oui.
Ottorino Respighi, qui était chef d'orchestre également.
Oui, hein. Oui, Pins de Rome, Fontaine de Rome, les fêtes romaines.
Voilà, bon, très inspiré par
la fameuse trilogie romaine
éternelle,
de Respighi. Ah, les Pins de Rome, c'est une merveille, une merveille. C'est là qu'il y a en même temps une bande qui doit passer avec un son de rossignol.
Oui.
Le chant d'un rossignol pendant le déroulement de l'œuvre. Donc c'est très particulier comme œuvre, hein, très beau.
Il est impossible de vous faire écouter l'œuvre de Gabriel Philippot que Demis Demati lui-même ne connaît pas. On va se contenter même pas, parce que c'est tellement agréable, de vous donner un aperçu des Pins de Rome d'Ottorino Respighi, le premier mouvement dans une version interprétée par le Berliner Philharmoniker sous la baguette d'Herbert von Karajan.
Thank you.
Pain de Rome, le premier mouvement de l'œuvre d'Ottorino Respighi, interprété ici par le Berliner Philharmoniker sous la direction d'Herbert von Karajan. C'est une des trois œuvres au programme du concert que donne le Toulouse Wind Orchestra la semaine prochaine à Saint-Pierre-des-Cuisines. Une petite curiosité des Miss de Letty pendant que je vous ai avec moi. Lorsqu'on n'est pas habitué à jouer ensemble comme ça, et apparemment on a assez peu de temps pour répéter avant les concerts, est-ce que c'est compliqué la mise en place ou est-ce que vous vous trouvez assez facilement parce que vous vous connaissez tous très bien depuis longtemps?
Ben, y a ça, oui. Premièrement, on se connaît depuis des années. On a des projets annexes dans lesquels on joue ensemble. Certains sont collègues de pupitre dans les différents orchestres nationaux français ou à l'étranger. Donc voilà, déjà au sein de pupitre, il y a déjà une cohésion qui est formée. Voilà, après, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est une histoire d'amitié aussi. Et tous les musiciens ont vraiment plaisir à se retrouver pendant ces sessions du Toulouse Wind Orchestra. Et du coup, entre cette effervescence, cette joie d'être ensemble et ce plaisir de faire partager la musique au plus grand nombre, voilà, il y a cette magie un petit peu des concerts qui se créent.
Et puis, il faut évidemment compter sur le chef pour tirer le meilleur parti du potentiel que lui offrent les musiciens. Nous allons refermer ce nouvel épisode de Mélomanie là-dessus. Merci à Anne-Marie et Serge d'avoir animé ce numéro à mes côtés. Et merci à Demis Delatti d'être venu nous présenter les deux prochains concert du Toulouse Wind Orchestra. Ils ont donc lieu les vendredis 26 et samedi 27 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est à chaque fois à 20h30. Au programme, Les Pins de Rome d'Ottorino Respighi, Dionysiaque de Florent Schmitt et la création mondiale du concerto pour hautbois de Gabriel Philippot. Si vous voulez vous informer et réserver vos places, il faut vous connecter au site de l'orchestre www.toulousewindorchestra.com. D'autre part, je rappelle que le mandoliniste Julien Martineau et l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Rinaldo Alessandrini sont en concert à la Halle aux Grains de Toulouse ce samedi 20 octobre à 18h. Renseignements et réservations sur le site www.onct.toulouse.fr. Je signale en passant que le CD de Julien Martineau et de l'ensemble Concerto Italiano, intitulé Come una volta, vient juste de paraître sous le label Naïf Classique. Ils y interprètent le concerto numéro 2 de Calacci et les deux concertos pour mandoline de Vivaldi. Et enfin, notez bien le récital que donne la contralto Marie-Nicole Lemieux jeudi 25 octobre à 20h. Au Théâtre du Capitole, avec un programme de mélodies sur des poèmes de Baudelaire et de Lieder sur des poèmes de Goethe. Et là, vous pouvez réserver sur le site www.theatredukapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h, ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine musicale.